Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Aujourd'hui, au programme, cette semaine, nous allons parler de Football Manager 2017. Et je commence... Ah. Non, j'avais déjà fait avant, ça marche moins bien la deuxième fois.
Ça marche toujours autant.
On va donc parler de Football Manager 2017 et de Dishonored 2, bien sûr. Et puis, on continuera par Lego Dimension, je ne sais pas trop pourquoi.
On va en parler, pas de souci.
Ça semble important. Et de Killing Floor 2.
Tout aussi important que Lego Dimension.
Voilà, je maîtrise à donf la ligne éditoriale de cette émission. Voilà, ça c'est fait. Et puis, Monsieur Fall, et puis le Comme des Coms, vous connaissez le reste du programme, bien évidemment. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Franz Durupt de Libération. Ça faisait longtemps. Mais oui, ça fait plaisir.
Enfin, moins deux mois, je pense.
Nous, on se croise un peu régulièrement.
On a l'habitude de se voir quand même.
Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Joël Métro, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, on va commencer avec toi, selon mes notes, Patrick.
Oui, bien sûr. On va parler Nintendo cette semaine en intro. Alors, on avait déjà parlé de la Nintendo Switch qui avait été annoncée il y a quelques semaines. On attend maintenant janvier pour avoir plus d'informations.
Et on parlera de la Mini NES une autre fois quand on y aura.
On aura plus mettre la main dessus, oui, voilà. Quand on ne sera plus. Voilà. Non, la news Nintendo, c'est à propos d'un jeu très attendu qui arrive en fin d'année. C'est un de leurs hits de la fin d'année. Non pas sur Wii U, parce que c'est plus calme sur Wii U depuis un petit moment.
Il n'y a plus
grand chose en fin d'année. Non, c'est sur la 3DS et c'est évidemment Pokémon Soleil et Lune, les deux versions, les deux éditions du nouveau jeu Pokémon. Ça sort le 23 novembre. Alors, jeu très très attendu. Alors, visiblement, c'est un très bon cru, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça a l'air de bien se présenter.
C'est surtout à cause d'un petit événement qui s'est passé cet été. Hein,
le fameux Pokémon Go sur mobile qui a cartonné, on en avait parlé aussi ici, qui a vraiment repropulsé complètement la licence, qui l'a remis en avant. On avait vu que ça avait repoussé complètement les ventes. Ça avait reboosté les ventes des jeux sur 3DS. Les précédents, le XY, je crois, avait profité d'une grosse relance via le succès du jeu sur mobile, même si ce sont des jeux différents, mais la licence généralement a profité d'un vrai, une vraie remise en avant. Et puis on a un parc installé quand même de 3DS qui est colossal aujourd'hui dans le monde. Donc aujourd'hui, ce Pokémon Soleil et Lune, on a appris via la presse japonaise que Nintendo aurait mis en place, aurait envoyé 10 millions d'exemplaires de la cartouche. C'est colossal pour un lancement sur la portable. Et sachant que ça ne concerne que les précommandes et le premier tirage du jeu. On peut s'attendre à des réassorts par la suite.
C'est fou, hein.
Donc c'est vraiment 10 millions, c'est vraiment colossal par rapport donc, au parc de machines. Donc voilà, c'est un jeu très très attendu. On en reparlera, je pense, dans les semaines qui viennent. Hein. C'est donc 23 novembre.
Normalement, on aura notre spécialiste local qui viendra nous en parler.
Des spécialistes qui vont venir nous en parler. Donc voilà, on en reparlera à ce moment-là. Donc a priori, ça se présente bien. Parc installé colossal, j'en parlais, grand cru. Et en tout cas, Nintendo, donc, on sent le buzz, on sent qu'il y a évidemment une attente sur ce titre. Il est stratégique pour Nintendo sur la 3DS qui a besoin de ça parce qu'on sait que la Switch arrive, donc comment la 3DS va survivre par rapport à la Switch. Voilà, tout ça va se régler dans les mois qui viennent. En tout cas, il y a une pression particulière au point que les petits malins qui ont essayé de pirater le jeu, qui s'est retrouvé sur le net, donc c'est pas bien de pirater. Et du coup, Nintendo, il rigole pas avec ça.
Merci Patrick.
Et on a appris via Kotaku que Nintendo avait carrément banni les joueurs qui connectaient leur 3DS avec des versions piratées du jeu. Donc Nintendo a mis en place un système pour repérer les versions piratées. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, la console, le hardware est complètement banni, en fait. On peut plus se connecter en ligne avec sa console. Donc c'est plutôt
dur. On peut quand même continuer à s'en servir, j'espère.
Oui, mais du coup tu peux plus accéder à l'eShop, tu peux plus te connecter, jouer en ligne avec ta console. Et d'après ce que disait donc Kotaku, donc plus de eShop, plus de jeux en ligne, et c'est lié au hardware, donc pas ton account. C'est-à-dire que si tu changes de console, tu peux retrouver, mais en tout cas ta console est grillée sur le online. Donc bon.
Sauf que tu te retrouves obligé de ne jouer qu'à des jeux piratés dessus.
Tu
peux jouer qu'offline, quoi, après.
C'est ça, que offline, c'est quand même dommage. Et surtout, tu n'as plus le eShop. C'est quand même un problème sur, donc à éviter.
C'est Nintendo qui se prive aussi de fonds, après.
Ouais, mais je pense que
c'est les méchants pirates.
Voilà, donc en tout cas, à éviter. Et voilà, on en reparlera, en tout cas, du prochain Pokémon.
Nintendo toujours, France, avec Nintendo chez Apple.
Voilà, avec la date de sortie de Super Mario Run et surtout son prix. Donc on va rappeler que ça a été annoncé en septembre avec la présence de Shigeru Miyamoto à la dernière keynote d'Apple. Miyamoto qui est venu sur scène pour annoncer ce jeu qui sera pas exclusif Apple puisqu'il sortira sur Android plus tard, mais on ne sait pas quand. Donc la date de sortie a été annoncée pour les systèmes iOS, donc ce sera le 15 décembre, à un prix plutôt élevé pour le marché du jeu mobile qui est donc de 10€ pour débloquer le jeu complet. Donc le jeu comportera 24 niveaux, si j'ai bien compris.
Il y a un accès gratuit, je crois.
Alors, il y aura 3 modes de jeu, et donc on pourra tester les 3 modes de jeu gratuitement. Mais il faudra payer d'un coup 10€ pour avoir tout le jeu, donc ça veut dire pas de système de free-to-play avec des achats intégrés et tout. On paye 10€, et après,
l'affaire
est
arrivée.
Voilà. Donc c'est un tarif qui est assez élevé.
Sur mobile.
En fait, c'est ça que Nintendo nous dit avec ce tarif. En gros, ils nous disent on n'a pas passé des années à hésiter avant de se lancer sur le jeu mobile pour faire ça en proposant des versions rabais de nos jeux. Donc en gros, c'est un Mario qui va vraiment s'inscrire dans la tradition des Mario. Et ce qu'ils nous disent avec ça, c'est qu'il y a notre savoir-faire derrière. Ça va les valoir.
Et puis la valeur, on sait que Nintendo conserve toujours très longtemps la valeur. On voit le prix de la Wii U qui ne baisse pas aujourd'hui, les portables ne baissent pas non plus. Ils font toujours très attention à garder la valeur, même les jeux, quand on suit la courbe de vente des jeux et de leur prix, ils restent très longtemps à un prix stable.
Ils protègent beaucoup leur marque, des jeux et des
consoles.
Alors après, c'est vrai que si on compare quand même à d'autres jeux, par exemple, c'est vrai que les Final Fantasy de Square sur mobile sont vendus très cher, je crois que c'est aux alentours de 15-20€ souvent.
Ouais.
Bon, après, c'est des rééditions, donc là, c'est un jeu original.
Oui,
c'est un bon compromis entre les 15-20€ d'un vieux Final Fantasy et les 3€ d'un Rayman.
Jungle Run. On est quand même sur un runner. Les runners, il y en a des tonnes et des tonnes sur.
Je pense que de toute façon, l'impact est à la sortie. C'est un Mario par Nintendo pour la première fois sur smartphone. Je pense qu'ils n'ont un peu rien à craindre, ça va se vendre. Après, le truc, c'est est-ce que ça va rester anecdotique par rapport à l'ensemble du marché mobile? Parce que le marché mobile, quand tu vois les chiffres d'affaires que font un Supercell ou un King sur leur jeu, normalement, quand on s'appelle Nintendo, c'est ça qu'on devrait viser. Or, ils ne le visent pas ça. Ils visent clairement les joueurs, les joueurs qui payent leurs jeux.
C'est symbolique, c'est un signal fort, c'est ce prix élevé, parce qu'on ne sait pas, Nintendo, dans les années à venir, peut-être qu'ils vont être nécessairement obligés de développer aussi leurs jeux sur d'autres machines, ce n'est pas impossible. Hein. Donc c'est un signal fort, oui, de dire, on conserve...
On ne brade pas, quoi. On est là, on n'est pas là pour rigoler.
On ne joue pas dans la même cour que les jeux free-to-play.
Alors, juste pour conclure, du coup, je n'ai pas les derniers chiffres, mais dans mes souvenirs, en tout cas, en octobre, je crois qu'il était question d'avoir qu'il y ait déjà 20 millions de personnes qui soient inscrites sur l'Apple Store pour avoir une notification quand le jeu sortira. Donc 20 millions de personnes, on est déjà sur un marché potentiel qui est à peu près l'équivalent des Super Mario canoniques en 2D.
C'était avant l'annonce du prix.
C'était avant l'annonce du prix. Alors après, combien qu'elles sont
inscrites.
Mais bon, c'est pour dire en tout cas l'appétit qu'il y a pour ce jeu. Et voilà.
Après, il faut être raisonnable. 10 euros pour un jeu, ça reste non plus. Truc. Joël.
Oui, petit tour du.
Parlons impôts.
Parlons impôts, c'est
un sujet un peu.
Parlons impôts.
C'est l'angle mort de Silence on joue.
Voilà,
on ne parle pas assez des impôts.
On va parler des impôts en faisant un petit tour par l'Assemblée nationale, où est en train de d'être discuté le projet de loi de finances 2017. Un amendement donc a été porté par Jean-Marie Beffara, qui est un député du Parti socialiste d'Indre-et-Loire. Un amendement a été déposé qui visait en fait à relever le crédit d'impôt du jeu vidéo de 20 à 30%, donc permettant en fait aux boîtes de se défrayer sur certaines dépenses. Donc ça a été adopté jeudi dernier par 10 voix, c'était assez je pense que l'hémicycle devait être assez vide à ce moment-là. Je pense que ça devait absolument passionner les parlementaires. Effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il faut savoir que le gouvernement était plutôt défavorable en fait à cette qui cherche évidemment à tirer le budget. Le gouvernement était plutôt défavorable à ce relèvement du crédit d'impôt, ainsi que le ministère de la Culture. Alors ça, c'est curieux. Alors que voilà, je crois que Azoulay était venu notamment par Games Week en disant j'encourage le secteur. Voilà. Bon, apparemment dans les faits, ça se suit pas. Apparemment, le ministère de la Culture avait mis un ennemi plutôt défavorable. Mais bon, en tout cas, cet amendement a été voté et passé. On peut remercier notre député Beffa.
On peut remercier. Après, d'une part, entre 20 et 30%, je ne suis pas persuadé qu'il y ait des projets qui ne se seraient pas faits à 20% qui vont se faire finalement à 30%. Tu vois, parce que c'est ça qui est gênant, en fait, dans l'histoire. C'est le crédit d'impôt, c'est fait pour favoriser le lancement de projets. Or, je ne suis pas persuadé que, pour moi, ça relève peut-être un peu plus. Je ne sais pas, je vais peut-être me faire dégommer par des développeurs indépendants qui vont me dire « Mais non, ça change tout » et tout ça. Mon intuition, c'est qu'on est un peu sur du cadeau fiscal, encore une fois. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait des projets qui ne se seraient pas lancés avec un crédit d'impôt à 20% qui, oh là là, c'est 30%, on va mettre les sous. Tu vois, je suis pas convaincu. En plus, le jeu vidéo en France porte plutôt pas mal en ce moment. Après, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, mais en termes de crédit d'impôt, j'en sais rien. Ça me ressemble plus à l'augmentation d'une énième niche fiscale, je sais pas, c'est bizarre.
Bon, à voir. On verra comment si les développeurs s'en saisiront.
Tiens, je suis du côté du gouvernement.
Oui,
ça va plus. Ça va. Il est vraiment de gauche, finalement.
Moi, j'avais juste un petit truc qui est sorti là ces derniers jours, qui me met dans une profonde tristesse. Hein, voilà, je vais le dire. Mmh. C'est l'annonce. Ils ont déguisé, ils sont forts quand même. Hein. Ils ont déguisé cette annonce par une bonne nouvelle, genre ouais, super, on va avoir les voix originales japonaises dans Persona 5. C'est une bonne nouvelle,
c'est bien. Mal, ouais.
Mais donc, du coup, vu que c'est hyper compliqué de mettre des voix japonaises qui existent déjà dans la version japonaise et que c'est hyper compliqué, le jeu qui était censé arriver le 14 février 2017 arrivera le 4 avril 2017. Donc ils vont mettre deux. Sachant que quand même il y avait quelque chose, il y avait aussi l'absence totale de sous-titres français. Les sous-titres vont rester en anglais. Moi j'aurais accepté deux mois de décalage et on aurait dit oui il y aura des sous-titres français. J'ai dit ouais ok c'est bon. Là bon les voix originales japonaises, sachant qu'en plus a priori ils vont plutôt bien travailler le doublage anglais. Ouais, je suis pas convaincu par le truc. C'est donc quand même, c'est deux mois en plus, c'est horrible, sachant qu'il est sorti en septembre au Japon. On sait que c'est une pure pépite. On sait que c'est vraiment un jeu majeur de 2016. Bon, donc voilà. Et en plus, j'étais un fan absolu de Persona 4. Donc, voilà. Bref, le com des com de la semaine dernière, où nous parlions de Battlefield 1 notamment. Stonga 9, vous en avez beaucoup dit. Le solo est clairement un tutoriel pour le multi. Mais le multi est très bon. C'est nerveux, violent, sans doute plus rapide que les épisodes précédents, avec des classes bien plus spécialisées. L'assaut devient difficile à jouer pour de la moyenne longue distance et n'a plus de kit de soins. Le jeu est beau, voire très beau dans les nuances de marron et de gris. L'ambiance sonore est quasi parfaite. Les cartes sont aux petits oignons. C'est simple, quand on arrête de jouer, on est essoufflé avec un goût de métal et de boue dans la bouche du grand Battlefield.
Oui, et de sang aussi.
Et
l'odeur de sueur. Bref.
On est fatigué. Rez qui nous dit « Les ajouts gratuits de GTA V Online font certes plaisir, mais personnellement, je regrette infiniment de ne pas avoir eu droit à un DLC solo pour replonger dans cet univers. » Je crois qu'on a déjà abordé le sujet, mais c'est complètement incompréhensible là pour la part de Rockstar de ne pas réutiliser cette map de Los Angeles qui est absolument incroyable pour mettre d'autres histoires, pour raconter d'autres choses. J'avais trouvé ça limite pas assez quand ils ont commencé à faire leur DLC pour GTA 4 d'en avoir que deux, qui étaient excellents par ailleurs. Il aurait fallu en sortir, je sais pas, deux par mois, enfin j'en sais rien. On avait envie de traverser cette ville et là, Los Angeles, c'est pareil.
Surtout que c'est vrai que pour les gens, par exemple, moi typiquement, je suis quelqu'un qui ne fait que de l'expérience solo sur ce genre de jeu. Je ne touche pas au multijoueur, je trouve ça trop anxiogène et trop violent. Et du coup, je ne touche plus à GTA 5 en gros depuis que je l'ai fini.
Oui, c'est triste. C'est triste, on aura envie d'y retourner.
C'est assez ballot.
Mais bref, Red rajoute quand même « Je suis aussi un peu déçu que vous n'ayez qu'à peine effleuré la polémique causée par l'absence de l'armée française dans Battlefield 1 au lancement du jeu. Non pas redire ce qui a déjà été dit, mais au moins entendre votre avis. J'ai beaucoup de mal à démêler le vrai du faux sur cette histoire. » Et là, il détaille, et je vais détailler parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet. Cela s'explique facilement selon Julian Wera, responsable stratégique chez DICE, qui dit « Pour Battlefield 1, DICE cherche à se concentrer sur les histoires peu connues de la Grande Guerre à emmener les joueurs là où ils ne s'attendent pas, afin de faire vraiment honneur à l'armée française en multijoueur et encore une fois de montrer un côté que l'on a peu l'habitude de voir. Nous avons choisi de lui dédier une extension premium entière avec un traitement spécial après le lancement du jeu. » C'est ce qu'il a dit à IGN. Nouvelle justification à France Info de Lars Gustafsson, le design directeur chez DICE. « Nous nous sommes vite aperçus qu'il y avait beaucoup d'empires en jeu dans cette guerre et beaucoup de destins qui n'avaient pas encore été exploités. Il était simplement impossible d'incorporer la France dans le jeu de départ. Il y a tant d'espoir à montrer. C'est pour ça que nous avons décidé de rendre hommage notamment aux soldats français dans le premier DLC afin de leur donner toute la place qu'ils méritent. » Bon, ça, c'est un peu beaucoup de la langue de bois, on va être clair. Cependant, quelques voix off, nous dit encore Red, quelques voix off soulignent que ça pourrait être l'armée française elle-même qui aurait mis un veto de circonstance. Alors que s'est-il donc passé? Une histoire de business qu'il faut dénoncer tout en avalant au cul des couleurs qu'on nous sert, ou un autre problème? Les joueurs russes sont tout aussi choqués, cela dit en passant. Est-ce que c'était important, ce truc?
Non, je pense que...
J'avoue que je ne suis pas vraiment intéressé à cette polémique dans la mesure où la présence de l'armée française ou non dans un jeu...
Ça m'a laissé... vu que le jeu, avec l'histoire, ça franchit un petit peu, une grande liberté, donc, qui est là...
C'est vrai que la Première Guerre mondiale, c'est Verdun, c'est des fronts quand même qui se passent en France, avec beaucoup de morts français. Bon, c'est vrai que c'est toujours assez bizarre. Après, c'est vrai que si on a l'envie d'un rappel historique, il y a toujours Soldat Inconnu d'Ubisoft, c'est pas la peine de... Moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Après, je ne sais pas. Je ne suis peut-être pas assez patriote et...
Il faudra voir ce traitement premium qui sera réservé, a priori, avec le DLC. On n'a pas encore d'annonce là-dessus. On ne sait pas exactement ce qu'il y aura.
Ils vont se faire massacrer. De toute manière.
Les Français ?
Oui, les Français.
Ah oui.
Ça
c'était le com de la semaine dernière. Il est temps de commencer à parler des jeux et on va commencer avec Football Manager 2017. Football Manager Sports Interactive, quand même chaque année, le Sports Interactive, donc studio anglais qui est propriété de Sega, qui livre son simulateur d'entraîneur de club de football. Alors voilà, je vais être un peu seul. Hein, je suis un peu, tu vois, normalement j'alterne NBA, football, manager et tout ça. Bon, bah là, ça fait deux fois en quelques émissions que je vais me retrouver un petit peu seul sur un jeu, mais c'est pas grave, n'ayons peur de rien. Alors, c'est un peu étrange parce que quand je chronique un jeu, j'aime bien parler surtout des franchises annuelles, comme ça, c'est toujours bien de parler des évolutions majeures qu'il y a par rapport à l'année précédente. Or, je me suis aperçu que ça faisait 3 ans que je n'avais pas touché à un Football Manager, enfin le dernier en date, donc c'était Football Manager 2014, j'en avais parlé.
Revenir aujourd'hui
Mais parce que normalement...
C'est une question intéressante.
Pourquoi? Parce qu'il faut une pause. Surtout, c'est pourquoi ne pas y être revenu avant, la vraie question. C'est pourquoi ne pas jouer chaque année à Football Manager.
C'est pour plus de perspective, je pense, non? Oui, ouais, c'est ça.
Non, c'est juste même que, en fait, c'est un gouffre. c'est un gouffre, c'est une addiction. Or...
Tu accumules la NBA, ouais, ça fait peut-être beaucoup les deux.
Hearthstone, Clash Royale, enfin, voilà, tu t'en sors plus, quoi. Enfin, voilà, il y a aussi un métier à tester, d'autres jeux à faire, donc il faut faire des choix. Et c'est un vrai gouffre, en tout cas, en ce qui me concerne. C'est vrai que quand je me lance dans une partie de Football Manager, je suis capable de me perdre totalement dans ce jeu-là. Et donc, c'est vrai qu'une fois, en 2014, enfin, en fin 2013 et sur le début de l'année 2014, je m'étais vraiment... J'étais vraiment bien tombé dedans. En fait.
T'as dû suivre une cure de désintoxication.
Non, c'est qu'à un moment, t'arrêtes de jouer. Je crois que c'était. Je pense que j'avais arrêté de jouer aux alentours de la troisième saison de foot, ou troisième ou quatrième. J'étais entraîneur, j'étais monté sélectionneur de l'équipe de France.
Et enfin, t'as arrêté, voilà. C'est... Grand prince, d'un seul coup.
Il y a un moment.
Est-ce que c'est toujours aussi austère? Parce que moi, j'ai un peu l'image d'une série assez.
Justement, alors.
C'est un peu du Excel.
Non mais ça reste.
Même les matchs ne sont pas très.
Il y a un nouveau moteur graphique. Bon alors on reste très 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 loin de FIFA. Hein. C'est absolument rien à voir. Il y a toujours cette sorte de maladresse comme ça de joueurs qui font pas les bons gestes au bon moment de ce que tu vois à l'écran parce que finalement le simulateur de match de Sports Interactive qui est exceptionnel. Il faut se rappeler que dans Championship Manager 4, il n'y avait pas d'interface graphique. C'est-à-dire qu'on avait du texte, on avait des commentaires, les commentaires du match qui s'affichaient en texte.
Pour rappeler le principe que le joueur, du coup, toi, tu ne diriges pas le match. En fait, toi,
non,
tu coaches.
Joues l'entraîneur, tu es sur le banc. Voilà. Je vais revenir d'ailleurs, revenons avant. L'idée, donc, c'est de prendre le contrôle d'une équipe. Moi, traditionnellement, depuis 2003 ou 2002, depuis que j'y joue, je prends Lorient, donc le club de Lorient, hein, les Merlus, hein, voilà, de Lorient, qui joue au stade du Moustoir. Voilà, bon, c'est là où j'ai grandi. Bon, bah voilà, c'est.
Les Merlus, c'est leur surnom.
C'est leur surnom, ils jouent en orange. Okay. Voilà, je ne sais pas si ça a un lien, mais bon, bref. Et donc, l'idée, c'est ça dépend, parce qu'il y a des années, ils sont en Ligue 2. Bon, là, ils sont en Ligue 1 depuis quand même pas mal de temps. Ils sont un peu installés, on va dire, dans le milieu de tableau de la Ligue 1. Et puis, c'est assez intéressant, parce que tu ne prends pas Barcelone ou le Paris Saint-Germain, qui ont des budgets monstrueux, où tu vas chercher à acheter les superstars, les trucs comme ça. Tu joues avec un club qui a quand même un budget conséquent. Là, j'avais 5 millions d'euros de transfert. Et puis, tu vas chercher, c'est le grand sel de Football Manager, à faire des bons recrutements et à composer ton équipe, et à la gérer sur le temps, voir 2-3 ans et voir tes joueurs progresser et puis gagner des matchs. Surtout,
c'est réaliste, le budget, 5 millions d'euros, est-ce que c'est,
c'est à peu près... Alors, pour le coup, toutes les données elles-mêmes, la seule chose dans Football Manager qui n'est pas réaliste, c'est le match au niveau visuel. Ouais. C'est la seule chose. Tout le reste, ce sont les vrais joueurs.
Ouais, c'est documenté.
C'est documenté. Je crois que la base doit en être à quelque chose comme 400, 500, 600 000 joueurs documentés avec des statistiques réelles.
Genre la taille, le poids.
La capacité de jouer au pied, l'accélération, la vitesse, le fait de faire des centres, la détermination, le courage.
Et on peut les customiser ou pas, les joueurs?
Les joueurs, non.
C'est dommage.
Tu peux peut-être en allant bidouiller dans la base de données.
Ah mais d'accord, mais bon, tu peux pas.
C'est pas. Par contre, il y a une nouveauté cette année, c'est que tu as un avatar en 3D, toi, en tant qu'entraîneur. Ah ouais. C'est absolument inintéressant. Moi, j'ai trouvé ça totalement à faire.
Ça peut être une femme.
Oui. Je
oui,
crois.
Ah, c'est bien.
Je ne sais pas. Voilà. Je crois. Enfin, moi, ouais. J'ai pas pris une femme, mais d'accord, peut-être mais bon. Ça peut être une femme. Je ne sais pas. J'aurais dû vérifier.
Oui, j'aurais dû vérifier.
Mais bref, pour ne pas s'étendre trop, en fait, ce qui est très impressionnant, mais alors là, encore une fois, je parle par rapport à Football Manager 2014. Hein, je ne sais pas trop les évolutions d'année en année. C'est que cette interface est un peu Excel, un peu austère hein, pour qui ne se passionne pas pour le jeu. En fait, elle est optimisée à un point qui est devenu magique. C'est-à-dire que chaque clic droit ou clic gauche est optimisé pour simplifier toutes les tâches. Par exemple, tu veux remplacer un milieu défensif, ce qui arrive souvent parce qu'il se fatigue à ce poste-là. Mmh. En fait, il va te proposer, enfin, pas le remplacer sur le terrain, parce que si le remplacer sur le terrain, tu prends le milieu défensif qui est dans tes remplaçants. C'est, bref, c'est pas un problème. Mais par exemple, dans ton équipe, dans ton 11 de départ, eh ben, en fait, tu cliques droit à un moment et puis tu vas avoir tous tes milieux défensifs avec leur qualité à ce poste en fonction du rôle du milieu défensif que tu as attribué dans ta tactique. Enfin, en fait, tous les systèmes qui nécessitaient dans les précédents Football Manager le fait de retourner dans la base de données, de voir la caractéristique de tes joueurs, mais lequel je vais mettre à la place, en fait, maintenant, à un clic, c'est accessible. En fait, c'est comme une sorte d'Excel, mais ultra amélioré, où c'est une sorte d'optimisation d'un aspect hypertexte du jeu qui permet de passer d'un tableau à un autre d'une manière très facile.
Mais est-ce qu'on peut parler de réalisme si, alors je sais pas, moi je suis pas du tout un connaisseur de Football Manager, mais est-ce que l'aspect psychologique du joueur est pris en compte?
L'aspect psychologique du joueur est bien sûr
formidable.
Pris en compte, et notamment maintenant, et ça d'après ce que j'ai lu, c'est une version c'est propre à 2017. Quand tu veux acheter un joueur, il est conseillé, parce qu'en fait, le joueur n'est pas qu'une marchandise, c'en est beaucoup une marchandise hein, dans le foot, mais c'est là-dessus c'est assez réaliste, mais il faut l'attirer dans ton club, parce que quand tu t'appelles Lorient et que tu t'adresses à un jeune joueur de Valence, par exemple, hein, parce que Valence a de très bons jeunes joueurs dans cette édition, notamment un certain Carlos Soler, hein, qui est un milieu défensif, ou Carlos Badal, hein, qui est un défenseur central. Bref, quand tu t'adresses à un joueur de Valence, tu veux le faire venir, un Espagnol, tu veux le faire venir sous les cieux un peu humides de Lorient, il faut le motiver, même si tu as le budget et tout ça, il faut que le joueur accepte de venir. Et donc, en fait, tu vas discuter avec lui présenter ton club, ton objectif, ton ambition et tout ça, pour essayer de le convaincre, lui. Parce qu'une fois que tu as convaincu le joueur, c'est beaucoup plus facile de convaincre le staff, même si le staff n'est pas d'accord, mais que le joueur ait dit « Ah non, mais j'ai envie de partir », le staff va… Voilà. Donc, tout ça, ça rentre en jeu et c'est…
D'accord.
Et en fait… Ça reste quelque chose de tellement énorme que c'en est vertigineux, en fait. C'est-à-dire que tu te mets aujourd'hui à interagir avec les réseaux sociaux, à interagir avec la presse, évidemment, avec tes joueurs, parce que tu as des causeries, tu as des réunions de joueurs où tu vas parler de l'ambition à court terme, à moyen terme, tu vas les motiver à la mi-temps, tu vas… Enfin, il y a tellement de choses à faire, et tout ça dans une sorte de…
De joie.
De réalisme absolument dingue, qu'on appelle, en anglais, c'est le suspension of disbelief. Il y a un moment, tu es dans une réalité, quand tu es dans Football Manager. Ça a beau être des chiffres, ça a beau être des tableaux, une sorte de navigateur web géant, tu es dans la réalité. C'est assez impressionnant. Alors, les détails, mais je sais plus si tu en avais parlé, mais tu voulais en parler à un moment, mais c'est le détail dans ce réalisme-là, c'est Miles Jacobson, donc le boss de Sports Interactive, qui avait expliqué qu'il avait incorporé même le Brexit dans Football Manager 2017, c'est-à-dire qu'au courant de l'année 2017, il y a le Brexit qui arrive et il y a trois différentes options, souple, moyenne et dure, qui arrivent au hasard, en fonction des permis de travail des joueurs étrangers qui sont actuellement en train de jouer dans le championnat anglais. Mmh. Voilà, et c'est absolument phénoménal.
Mmh. Il faut combien de temps à peu près pour faire une saison
Alors, c'est très variable, parce que moi, je sais que je passe énormément de temps en intersaison, au moment où il n'y a pas de match, et c'est là que je me perds avec les scouts, avec essayer de repérer des joueurs et des choses comme ça. Et finalement, après les matchs, c'est est-ce que tu veux être l'entraîneur qui est tout contre, enfin, une sorte de fric, contrôle fric qui va tout contrôler, tous les paramètres, ou finalement tu te dis je choisis ma tactique, je choisis mes joueurs, je fais mes remplacements au bout du match, et puis après, je suis les conseils de mon entraîneur adjoint qui s'y connaît aussi bien que moi. Et voilà, ça dépend. Après, moi, je sais que je mets à peu près une semaine de jeu assez intensif pour faire une saison de jeu.
Et tu joues en ligne
Non, je ne joue non, pas du tout. Non, je sais qu'il y a des modes de jeu en ligne, mais je n'ai pas essayé. Bon. Bref, ne nous attendons pas trop, parce qu'on a quand même un gros morceau après. Hein. Mm-hmm. Ça s'appelle Dishonored 2.
Voici la sœur disparue de Jessamine Caldwin, Delilah Caldwin.
Impossible.
Je viens te soulager du poids de la couronne.
Quelqu'un t'a coupé l'herbe sous le pied.
Tu as perdu ton trône et ton père.
Et je peux t'assurer que Delilah n'est pas prête à te les rendre. Alors, jusqu'où êtes-vous prête à aller,
Votre Majesté impériale?
Dishonored 2, qu'on attendait quand même après un premier épisode sorti en 2012, Arkane Studio, le studio lyonnais, bon, qui a maintenant d'autres filiales, enfin voilà, Austin notamment, mais qui avait sorti bon, un studio qu'on connaissait, hein, qui avait déjà les Dark Messiah of Might and Magic, et puis un autre avant, là,
Arx Fatalis,
on le faisait bien, ça, c'était voilà. Et qui nous avait sorti un Dishonored absolument incroyable, où on incarnait Corvo, donc, qui voulait se venger de l'assassinat de l'impératrice, et dans les rues de Dunwall, une sorte de ville victorienne steampunk, et on arrive voilà, à Dishonored 2, qui vient tout juste de sortir, et je vais vous laisser parler parce que vous avez beaucoup plus joué que moi, et je vais laisser la parole à Franz d'ailleurs.
Bien.
Qu'est-ce qui se passe dans ce Dishonored 2?
Alors, le Dishonored 2 commence donc, l'histoire commence 15 ans après à la fin du premier Dishonored. À la fin du premier Dishonored, donc, on incarnait Corvo Atano, qui était donc le protecteur royal. On a vengé la mort de l'impératrice qui a été lâchement assassinée, et on a sauvé sa fille, Emily Caldwin. Donc ça se passe 15 ans après, donc Emily Caldwin est sur le trône. Corvo Atano, donc le jeu nous apprend dès le début un choix scénaristique que je comprends pas très bien, mais enfin du coup c'est pas vraiment un spoiler que je le dise, puisque c'est une des premières choses qu'on apprend, que Corvo est le vrai père d'Emily
tout de suite,
donc j'ai pas très bien compris ce choix scénaristique. Moi j'appréciais le fait que leur relation se contente d'être juste protecteur impératrice, mais enfin je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais donc voilà, donc on est père et fille au début du jeu dans une cérémonie un peu pompeuse qui ennuie d'ailleurs un peu l'impératrice. Et quand débarque soudain une personne dont le prénom est Delilah, qui dit « Je suis ta tante, je suis la sœur donc, de l'impératrice qui avait été tuée il y a 15 ans, et le trône me revient », et donc elle fait une sorte de coup d'État où elle s'égare, élimine un peu tout le monde.
Ce qui n'a pas paru hyper clair quand même. Hein.
Alors en fait, pour comprendre ça, en fait, le personnage de Delilah, pour le comprendre, en fait, il faut avoir joué au contenu additionnel du premier Dishonored.
D'accord.
En fait, on la découvre dans les Sorcières de Brigmore, qui est le deuxième DLC du premier Dishonored, qu'on jouait avec l'assassin d'Aude, qui était l'assassin de l'impératrice. Enfin, voilà. En fait, c'est une sorcière qu'à la fin des DLC de Dishonored, on avait le choix entre la tuer ou bien l'envoyer dans le Grand Vide, qui est cet endroit où on croise cette sorte de semi-dieu là, qui nous donne nos pouvoirs. Enfin, on va revenir sur les pouvoirs et tout. Bref, en fait, c'est un personnage qui est issu de ce contenu additionnel, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas clair du tout au début du 2. Hein. On comprend pas.
Parce qu'en plus, quand un roi meurt, c'est ses enfants, c'est pas son frangin qui prend le trône.
J'appelais Stéphane Bern et.
Ouais, mais c'est pour ça qu'en réalité, c'est un vrai coup d'État, puisqu'elle a ses gardes qui butent tout le monde.
Voilà.
Et donc, c'est à ce moment-là que le jeu, donc première nouveauté de Dishonored 2, elle est là dès le début, c'est que on a le choix au début entre jouer l'aventure avec Emily ou la jouer avec Corvo. Donc l'un des deux va être emprisonné dans de la pierre pendant que l'autre va être emprisonné tout court et qu'il va falloir le libérer en le jouant. J'ai commencé avec Emily, donc je sais pas trop ce qui se passe quand on joue Corvo, hein, mais voilà. Après, donc ça reprend en fait le leitmotiv du jeu, c'est de reprendre tout ce qu'il y avait dans le premier, mais en mieux, en plus. Et donc, on se retrouve à peu près au début du jeu sans pouvoir. Hein, voilà, donc l'originalité, en tout cas son mode de jeu, c'est qu'on a c'est un FPS d'action-infiltration dans lequel on acquiert des pouvoirs au fur et à mesure. Et donc, notamment des pouvoirs qui permettent de se téléporter sur une courte de distance.
Et le pouvoir majeur, le pouvoir majeur du jeu, et qui a été une vraie nouveauté dans le jeu vidéo, cette capacité de sauter dans l'espace comme ça, d'un point à un autre, dans un jeu d'infiltration, paraissait complètement surréaliste, parce que tu te dis, bah oui, mais c'est quoi l'intérêt? Tu peux te téléporter d'un point à un autre, c'est hyper simple d'être discret, quoi. Et or... le level design du jeu et du premier et du second dans, à sa suite pensées, fait que c'est pas si évident que ça. Évidemment, c'est pas un cheat code qui, de, qui nous permet de... Mais voilà, ça permet de débrider complètement et l'imagination, en fait.
C'est ça. En fait, le jeu, ce qui est vraiment marrant, c'est que le jeu nous donne plein de pouvoirs. Donc après, Emily et Corvo n'ont pas les mêmes. Hein. Par exemple, un des pouvoirs qui est vraiment intéressant chez Emily, c'est le pouvoir domino qui permet de lier en fait, plusieurs ennemis entre eux. Et donc après, quand on en tue un ou quand on en neutralise un, ça neutralise tous ceux qui ont été liés par le pouvoir. C'est un pouvoir vraiment très intéressant qui permet de faire plein de choses. On peut... ce qui est marrant, c'est qu'on peut... Genre faire des sortes de cocktails de pouvoir parfois. On lit des gens par l'effet domino, puis après on va poser une mine quelque part, on va se mettre ailleurs, on va en attirer un à soi pour l'étrangler, puis on va avoir prévu autre chose. Enfin, il y a des vidéos, notamment sur le premier Dishonored, hein, mais qui commencent aussi à apparaître sur le 2, où on voit des niveaux, voilà, des gens qui traversent les niveaux avec un style incroyable. on comprend absolument pas, on comprend limite pas parfois ce qu'ils sont en train de faire, tellement c'est délirant, là, toutes les possibilités offertes par le jeu. Et ce qui est vraiment très intéressant dans ce jeu, en fait, c'est que il y a beaucoup de pouvoirs qui sont donnés aux joueurs. Et en fait, c'est un jeu qui nous invite à toujours tester jusqu'où il va pouvoir supporter notre liberté, quoi. On se demande toujours, ah oui, mais alors du coup, si j'essaye ça ici, si je fais ça là, est-ce que je vais piéger le jeu, est-ce que je suis en train de faire un truc qu'il n'avait pas prévu. Et il se trouve que en général, enfin, même le jeu n'est jamais pris en défaut, c'est-à-dire il est toujours il a toujours réponse à toutes les situations, on n'arrive jamais à le tromper. Et voilà, mais c'est vraiment intéressant, c'est une sorte de dialogue un peu qu'on met en place avec le jeu.
Mais à tel point que j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Généralement, un jeu, il y a la solution évidente et puis il y a les chemins de traverse. Oui. Ils sont 2, 3, 4. Ils sont prévus comme des chemins de traverse. Et là, on a juste l'impression qu'il n'y a que des chemins de traverse. En fait. Il n'y a pas de solution évidente. Il n'y a pas le couloir central et les petits passages. Comme dans Deus Ex, par exemple, qui est très classique là-dedans, où tu vois le chemin principal et puis tu sais qu'il va y avoir des conduits un peu partout que tu vas chercher, tu vas trouver tout ça. Là, on a l'impression qu'il n'y a que des conduits partout.
Vertigineux, quelque part, quand on est aux commandes de son personnage. C'est vrai qu'on parle beaucoup des mondes ouverts aujourd'hui pour laisser plus de liberté aux joueurs, pour laisser aux joueurs sa propre manière d'aborder une narration. Et là, c'est vrai qu'on est sur un univers fermé, on n'est pas sur un monde ouvert en termes de level design. Mm. En fait, le monde ouvert, il se reproduit en fait, dans le gameplay. C'est vrai qu'on on sent qu'on a tout un panorama d'outils qu'on peut utiliser, de façons de l'adapter. Et on a vraiment l'impression de façonner son jeu en jouant. Enfin, moi, c'est assez troublant, même, je trouve. La façon dont on peut choisir de rentrer dans le tas et d'y aller, passer vraiment en mode action. Et avec parfois il y a des implications qui vont venir de ça. Si on est vraiment trop violent, on peut tuer tout le monde.
En fait, à la fin de chaque mission, voilà, il y a un indice de chaos, il y a un chaos faible, un chaos élevé, et on sent qu'à la fin, ça va avoir forcément une incidence sur le destin de nos personnages.
On sent que c'est la facilité, en final. Le côté chaos et de tuer tout le monde, c'est le plus simple. C'est le côté le plus facile, le plus simple en fait de la façon d'aborder un endroit.
Moi, en abordant vraiment. Au départ, j'avais oublié un peu les réflexes du premier, et c'est vrai qu'en déboulant dans le jeu, je commence à massacrer tout le monde. Et je me dis. On se fait vite un peu calmé, puis je commence à avoir des remords, quoi, en me disant. En plus, ce que j'aime bien, c'est on sent que le personnage a du remords, enfin, parce qu'effectivement, j'ai joué aussi Emily Corvo, et on entend un peu ses cris de terreur lorsqu'elle assassine des gens. C'est-à-dire, elle est là, j'ai fait un peu une connerie, quoi. Effectivement, au fur et à mesure, on en vient à jouer de plus en plus subtilement, quoi. Mais moi, c'est pas ce qui m'a davantage plu dans le jeu, c'est d'emblée, c'est vraiment l'impression de naviguer dans un tableau, quoi. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime, c'est le parti pris. La plupart des jeux d'action et d'infiltration aujourd'hui vont vers toujours plus de réalisme. Ouais. Et là, pas du tout. C'est vraiment genre on navigue dans un tableau ou dans une BD. Et ce que je trouve formidable, c'est que du coup, tous les objets, tous les décors ressemblent un petit peu à notre quotidien, mais pas tout à fait. Donc on se retrouve à regarder, un stylo, une cuillère. On se retrouve vraiment.
J'ai resté hyper longtemps devant la machine à écrire, moi. Comment ça marche
On est un peu perdu dans dans cet univers où les choses ne sont pas reproduites telles quelles.
Très cohérent.
Et du coup, effectivement, on passe beaucoup, beaucoup de temps, alors non seulement à regarder les chemins qu'on va emprunter, mais aussi du temps à regarder les détails, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qu'est-ce que c'est beau.
Peut-être dire d'ailleurs à propos de l'univers, donc on a changé d'univers par rapport au premier. On n'est plus à Dunwall, donc qui était cette cité très sombre, rongée par la peste. Donc là, on est dans la ville du sud du royaume dont vient Delilah, qui s'appelle donc Karnaca, qui est une ville très ensoleillée, etc. Ce qui était un peu, j'en ai discuté un peu avec les développeurs cette semaine par téléphone, et ils disaient en gros au début dans l'équipe, ils se disaient on va faire Dishonored à Saint-Tropez, ça va être un peu bizarre et tout, mais après ils se sont dit que c'était quand même intéressant de le faire. Alors après c'est vrai que ce qui est vraiment bien fait quand même, c'est que cette ville elle est certes très ensoleillée, etc., mais on n'empêche qu'on sent bien quand même que à travers tous les endroits qu'on visite, on sent bien que c'est quand même un endroit quand même assez malsain, enfin assez, voilà, c'est un univers qui n'est pas du tout bien géré par la personne qui le dirige. Il y a quand même beaucoup de pauvreté, beaucoup de maladies, beaucoup de, voilà. Et ça, donc ça, c'est, voilà, c'est un aspect quand même assez intéressant à dire sur l'univers du jeu, quoi. Par ailleurs, sur le côté aussi, effectivement, ce que tu disais, le monde ouvert, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est du monde ouvert, mais à échelle très réduite.
Oui, hyper, voilà. Macro, c'est du macro.
C'est du micro monde ouvert. Ça, c'est vrai que c'est très marrant aussi, le fait qu'effectivement, les maps se traversent en courant en 1 minute 30, 2 minutes, quoi. Mais on peut passer vraiment deux heures.
Ouais, c'est
on peut passer 2 heures littéralement.
Des situations parfois.
À explorer un micro-quartier.
Ou à essayer de plusieurs façons différentes. Voilà. C'est vrai qu'on peut attaquer un problème de différentes manières. Est-ce qu'on va tirer les gardes que... Est-ce qu'on va les tuer un par un? Est-ce qu'on va rentrer sans se faire voir? On peut aussi complètement passer inaperçu. Et ça, c'est...
On peut se faire voir par personne.
Et ça apporte, moi, je trouve, une tension quand on aborde un niveau, de se dire, bon, bah, c'est vraiment à moi de gérer ou de trouver la manière de l'aborder. C'est à moi de comprendre la logique du jeu. Enfin, je l'ai compris parce que j'ai assimilé ça aussi. Enfin, je trouve que la progression dans le jeu se fait très bien avec les pouvoirs qu'on absorbe peu à peu. Ouais. Mais pour moi, il y a une direction artistique de malade mental. Je trouve que ce jeu, il a un cachet fou. Tu parlais de tableaux. On a tout le temps l'impression d'être dans les tableaux. Alors, c'est amusant de voir qu'il y a pas mal de tableaux, de peintures dans le jeu elles-mêmes qui sont présentes. On sent qu'il y a un rapport à l'image très particulier dans Dishonored.
De découper et à revendre.
C'est vraiment omniprésent. Moi, j'étais vraiment agréablement surpris par l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est important sur un jeu d'infiltration. Quand on vient de jouer à Mafia, quand on a fait même du Battlefield, c'est vrai que se trouver avec des personnages qui sont beaucoup plus réactifs, on est un peu en stress. Hein. C'est vrai que les passages, quand on essaie d'être discret, il faut être très prudent sur les bruits qu'on va faire, sur la manière de se déplacer. Donc ça, c'est vraiment
sensible
en compte.
Sensible au bruit, les ennemis. Je trouve un peu trop sensible au bruit.
C'est vrai que c'est pas facile. Hein, moi, j'ai eu tendance très vite à essayer.
Un planche qui craque, il y a le mec en dessous qui monte.
Mais c'est clair. Mais combien de fois j'ai essayé de la jouer subtile, infiltration, puis très vite ça finit en carnage parce que la moindre erreur et c'est parti, quoi. Mais on sait toujours que c'est notre faute. Hein. On sait que voilà, c'est moi. J'ai pas fait attention à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on apprend aussi peu à peu vraiment à maîtriser tout ça. Moi, j'étais aussi surpris par le côté gore du jeu. Je me rappelais pas, j'ai pas relancé le premier depuis longtemps, mais
le premier était assez violent aussi, mais moins quand même.
Mais là, on découpe les personnages, on s'en veut, même des fois, moi je suis gêné, je me bats contre un mec, il est découpé en charpie, c'est très gore. Moi c'est plutôt un bon point, je trouve que le jeu assume complètement, il y a ce côté beauté de l'environnement.
Il y a un côté un peu grotesque parfois dans les combats, on tape quelqu'un, il s'envole.
Mais d'ailleurs, c'est assez raccord avec moi je trouve les gueules des personnages, ça fait partie de la direction artistique, mais la gueule des persos qui sont un peu déformés, mais pas trop. C'est assez subtil ce côté, ils sont pas réalistes et en même temps, ils sont cohérents. Et tout ça marche bien finalement. Et c'est vrai que c'est très gore.
Moi, sur la DA, ce qui est marrant, c'est qu'au début, je me suis fait un peu la même remarque que Uncharted, quand on avait parlé d'Uncharted, où c'est vrai qu'on avait ces décors absolument dingos que le joueur pouvait parcourir en 25 secondes. Et on se disait, mais... Il y a un retour sur investissement qui n'est pas logique. Et je me suis fait cette remarque-là dans Dishonored, mais finalement, je me suis rendu compte que l'approche était complètement différente. Oui, c'est-à-dire que autant dans Uncharted, on va passer à travers un décor parce que finalement, on n'a aucune incitation à rester dessus, même s'il est très beau, même s'il est très réussi. Voilà,
c'est très cinéma, en fait. C'est du mouvement de cinéma,
Il faut avancer vers la fin du niveau qu'on ne reverra plus jamais dans le jeu.
Mais c'est ce qui fait aussi que c'est un grand jeu. C'est qu'il y a un côté, on balance des super décors qu'on traverse très vite. Enfin, il y a un luxe.
Mais alors que là, finalement, voir les décors, admirer les décors, ça sert aussi le jeu. On apprend à connaître par cœur les environnements pour éventuellement... se décider à prendre une route ou une autre.
Ça prend du temps.
Ce travail, et c'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant et que ma façon d'appréhender les choses a évolué en jouant, c'est que tout ce travail est beaucoup moins, on va dire, argent jeté par les fenêtres que...
Mais, bah, plus mise en
valeur. Hein, oui, beaucoup, c'est beaucoup plus en fait, mise en valeur.
Tu commences par l'aborder par le level design, comme tu disais. Ouais. Donc tu apprends à maîtriser l'espace. Mais il y a aussi la dimension narration environnementale, où tu as beaucoup de choses à lire. Les décors racontent beaucoup de choses aussi. Là, tu découvres pas mal de choses dans les lieux.
Vous lisez les textes,
vous? Quelques-uns,
j'en lis plus que la moyenne générale dans ce genre de choses.
Ça dépend de la taille. Toujours du détail des textes.
J'ai du mal avec ces. Moi, j'y arrive pas. Dans les jeux, j'y arrive pas. The Witcher, j'y arrive pas. Le machin.
Des fois, t'as des infos.
Bah oui, il y a des infos.
Skyrim, j'y arrive pas.
Ça apporte de l'épaisseur.
Ça apporte de l'épaisseur, mais tu.
Il n'est pas seulement beau. Enfin, il y a aussi une écriture derrière sur l'histoire de l'endroit.
Non, mais d'accord. Mais je suis d'accord. C'est sûrement hyper beau, mais voilà, j'ai pas lu les livres sur Halo parce que j'ai pas envie de lire les livres sur Halo. Donc j'ai pas envie. Si sortait des livres Dishonored, je lirais sans doute pas. Donc je vais pas les lire. À l'intérieur
mais là, après,
du
ça
jeu,
peut c'est te servir dans le jeu. C'est vraiment partie de l'environnement.
C'est ça qui est différent.
Et là, c'est fourbe. J'ai pas envie de.
Mais dans BioShock, tu disais ou pas dans BioShock?
Non.
Ah ouais.
Alors, à propos de BioShock, ça n'a aucune. À propos de BioShock, je trouve que justement, là, c'est peut-être un de ses défauts, c'est qu'il. Des fois, il colle un petit peu trop à cet univers.
Ouais,
c'est-à-dire que notamment de ce passage dans le manoir, dans un manoir où on est guidé par une voix, par la voix de quelqu'un d'assez maléfique. On a vraiment l'impression de retomber un petit peu dans BioShock. Ça m'a un peu.
Après, on n'est pas sur le même gameplay, on n'est pas sur la même dynamique.
Certes, mais bon,
plus,
ça fait un petit peu. Il y a un petit côté décalque qui est un peu gênant.
Ah ouais, justement, moi, tu vois, quand je pense à BioShock en jouant à Dishonored, c'est rarement à l'avantage de Dishonored, c'est-à-dire pour moi c'est vraiment un jeu qui écrase carrément BioShock en fait pour moi parce que ça se voit notamment justement sur la question de level design et tout en fait. BioShock c'est un jeu qui pour moi c'est un peu un jeu je l'ai adoré quand je l'ai fait
mais frustration
à terme en fait avec le recul je me dis c'était un peu une arnaque en fait parce que
est-ce que tu en joues? Est-ce que tu le
j'ai relancé,
une rejouabilité comme sur un Dishonored par exemple.
En fait, BioShock, il y a une sorte de magie qui peut fonctionner le premier coup, mais après quand on y réfléchit, on se dit j'ai vraiment été arnaqué parce qu'en fait j'ai cru que je suivais un truc par ma propre volonté. En fait, j'étais pas du tout libre et tout. En fait, dans BioShock, on se rend compte. Il y a plein d'incohérences dans les BioShock, notamment dans Infinite. BioShock Infinite, c'est incompréhensible. Dès le début du jeu, il y a une cabane à gauche et on va tout de suite la fouiller pour trouver de l'argent. C'est débile, le personnage ne ferait jamais ça. Et nous, on le fait en tant que joueur parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose à trouver. Et dans Dishonored, je trouve qu'il n'y a pas ce... Justement, il n'y a pas ce... C'est ça la réussite de la cohérence de Dishonored, je trouve. C'est qu'on ne va pas aller fouiller des endroits qu'on n'a pas besoin de fouiller. Si on y va, c'est parce que...
Il y a une tension aussi. Enfin, il y a une tension dans le gameplay. Il y a une vraie tension de...
Et ceci parce que c'est pour ça, même les trucs à lire et tout, moi, je les trouve intéressants parce que... Quand il y a un enregistrement à écouter, on se dit, il va m'apporter quelque chose, et il a un endroit où il est censé se trouver. Quoi.
Non, c'est clair.
Et, on comprend que si on l'écoute, on va sans doute apprendre un truc qui va nous permettre de trouver un coffre, une combinaison.
Ouvrir, d'avoir un code, des choses.
Et les runes, c'est assez important aussi de les signaler parce que c'est un des moteurs principaux de l'exploration du jeu, c'est d'aller trouver les runes qui permettent de gagner des pouvoirs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire tout le tour d'un niveau pendant des heures et tout. Mais voilà, moi je trouve que c'est ça qui est vraiment très réussi dans le jeu. Et en discutant aussi avec le level designer Christophe. Carrier là-dessus, disait en gros, eux, ce qui était vraiment au cœur de leur démarche, c'était justement sur la conception des niveaux, c'était de poser beaucoup de repères du quotidien pour le joueur, dont on ne se rend même pas compte, et qui fait que quand on arrive dans une rue ou un truc, on comprend tout de suite si on va à tel endroit, où est-ce qu'on va arriver, machin et tout.
Si ça va être dangereux.
C'est vrai que,
De toute façon, c'est alchimie qui est quasiment invisible aux yeux du joueur, qui donne comme ça ce sentiment d'avancer dans quelque chose d'unique en fait.
Jouer de prévisible avec les codes du jeu vidéo comme dont tu en parlais et puis quand même surprendre. C'est pas évident et ça je trouve qu'il le réussit bien. Moi, c'est vraiment ce que j'appelle un jeu univers où en fait on suit finalement un chemin linéaire mais il y a tout un monde autour. On sent que c'est un jeu riche en termes de construction de on imagine plein de choses dans ce monde. Et en plus, il a un cachet.
Il y a plein d'histoires, plein de micro-histoires à découvrir, des personnes. On rentre dans un appartement de quelqu'un, l'appartement a un nom, on sait que c'est l'appartement de telle personne. On va lire des trucs et on va savoir un peu ce qui est arrivé à cette personne. Et puis, on va trouver son corps à un autre endroit dans le jeu. On va comprendre ce qui lui est arrivé. Enfin, ça sert absolument à rien.
C'est marrant, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, il y a plusieurs décennies. C'est, j'imaginais le jeu vidéo comme ça, qui me laisserait la possibilité d'aborder les jeux à ma manière, qui calquerait en fait son univers et sa dynamique à ce que moi je voudrais.
C'est là où ça colle à un fantasme.
C'est ça, façon, c'est que le jeu, finalement, tu l'abordes comme tu veux et tu en fais un peu ce que tu veux. Alors voilà, tu peux prendre des décisions, tu joues la manière dont tu veux, ou comme tu peux aussi, parce que tout le monde n'est pas forcément bon en infiltration.
Sachant que ça, effectivement, tu joues comme tu veux, en même temps, tu sais très bien qu'en termes de valeur de l'exploit, on va dire, qui est toujours important une fois que tu as fini un niveau.
C'est ce que je disais,
plus t'as buté de mecs un peu de manière sale,
c'est pas classe.
T'arrives à la fin du niveau, mais c'est pas bon,
t'as envie de le refaire.
Justement, le jeu se prête très bien donc à la rejouabilité. Donc
au départ, je pense qu'il est pensé pour.
Effectivement, donc on peut l'aborder avec. J'ai l'impression que tout le monde a commencé avec Emily.
Voilà, c'était pour changer du premier.
Voilà, nouveau perso, c'est clair.
Donc après, on va pouvoir jouer avec Corvo. Enfin, moi, j'ai pas encore joué avec Corvo, donc j'imagine que le gameplay sera encore différent.
Et il y a les mêmes pouvoirs que dans le premier, en fait.
Voilà, donc je trouve ça donc une rejouabilité en plus dans ce jeu.
C'est un jeu, de toute façon, moi, pendant tout le temps que je fais ma première run, je pense directement à la deuxième, quoi. Je me dis, quand je vais apprendre, ça va me servir. C'est pour ça aussi que je visite tout, c'est pour me dire, ça te servira quand tu le recommenceras, parce que, voilà, c'est vrai que c'est un des moteurs aussi.
Après, tout n'est pas parfait. Enfin, moi, je sais que moi, j'ai un peu bloqué. Alors, un truc, je crois que j'en avais déjà parlé sur le premier, un truc qui m'a choqué, que j'avais déjà vu sur le premier il y a 3-4 ans. On est dans des environnements très lumineux, notamment dans la nouvelle ville. On est sur un jeu qui n'est pas photoréaliste, mais qui a un vrai cachet. Et on n'a pas d'ombre. Notre perso, en fait, le body awareness, c'est un truc qui me dérange. Je sais que c'est peut-être stupide, mais c'est un truc qui me gêne. C'est-à-dire qu'on a un vrai souci du détail dans les décors, etc. On passe parfois dans des vrais livrets de lumière super impressionnantes. Et on est transparent, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ombre projetée. Ouais, on est comme sur un jeu d'infiltration, je trouve ça un peu bizarre. On n'a pas de vision de notre corps, et c'est vrai que sur un FPS.
C'est un peu gênant, c'est vrai. À certains moments, on se dit.
C'est un truc, moi, qui m'avait déjà bloqué sur le premier, et là, je me dis, il continue sur un jeu next-gen, donc ce n'était pas une limitation technique. C'est un choix, et moi, ça me choque un petit peu, ça m'embête. Je trouve que c'est important.
Je suis d'accord avec toi. En fait, on n'a pas la sensation de.
On flotte.
Alors c'est dommage, parce que le jeu, on voit des endroits où on se dit. En hauteur, on se dit, mais je vais jamais pouvoir me faufiler ou me mettre dessus.
Et finalement, nos mains, comme un FPS à l'ancienne, on n'a pas notre corps.
C'est peut-être un défaut du jeu, de ne pas se sentir physiquement incarné.
Je trouve que c'est un peu embêtant. Et moi, je trouve que les chargements sont parfois très très longs.
Les chargements sont trop longs.
Quand on meurt, qu'on recommence.
Notamment sur console, quand on veut faire un niveau parfaitement sans être repéré et sans tuer personne,
ça rame un petit peu aussi. Moi, sur PS4, j'ai quelques petits moments où le jeu est hyper ambitieux. Visuellement, on sent que
il y a des problèmes techniques.
Ça rame un petit peu. Voilà.
Le jeu est sorti. Enfin, pas un reboot de la console, mais sorti avec la jaquette de la console.
D'accord.
Bon. C'est pas grave. Non, mais en plus, je ne voulais pas le signaler. On parlait des bugs comme ça, mais c'était...
Mais c'est vraiment long. Je sais que je bloque là-dessus, mais sur un FPS...
Mais sur le body awareness, c'est vrai qu'on n'est pas encore...
Surtout sur un jeu où on fait attention à son corps, justement. On se dissimule, on fait... Enfin, voilà, c'est super important. Et là, moi, ça m'a un peu frustré. Voilà. Mais je l'avais déjà vu sur le premier. C'est un choix.
Moi, le seul truc que j'ai trouvé bizarre, c'est les passants qui sont pas méchants, en fait. Qui sont,
tu peux tuer des fois parfois, comme par erreur. Enfin, c'est vrai que avec les touches, parfois,
non,
c'est...
Non, surtout, en fait, moi, tu te balades, t'es genre accroupi. Avec un poignard dans la main. Tu te balades à côté d'eux et ils continuent de discuter. Je vois passer un mec accroupi avec un poignard à la main. Ouais. Je reste pas.
La physique aussi, la physique des persos, parce qu'on a intérêt à les cacher quand on tue les gardes, on les prend, on les jette. Il y a un effet. La physique est un peu exagérée. C'est vrai qu'ils ont un côté.
Mais
ça, c'est vrai que c'est raccord avec l'univers.
Ça reste une réussite absolue.
Ça, on l'oublie en jouant. C'est vrai qu'on passe outre. Tous ces problèmes.
Oui, un dernier truc à ajouter justement sur le côté vraiment réussite pour le coup. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le jeu, il propose plus de niveaux. Il a au moins deux niveaux déjà qui sont assez remarquables parce qu'ils introduisent un gameplay un peu différent. C'est le fameux manoir mécanique qui a déjà été montré. Puis il y a un autre niveau aussi où on peut voyager dans le temps à l'aide d'un objet, etc. Et je trouve ça intéressant parce que c'est des niveaux... Moi, par exemple, le manoir mécanique, quand je l'ai fait, donc je résume rapidement, on est dans une maison d'un fou, où tous les décors sont modulables, etc. On actionne des leviers et il y a des panneaux, les décors s'en vont, se changent, etc.
C'est un tour de force, quoi. C'est vrai que
ce niveau est vraiment un tour de force parce qu'on arrive à ne jamais être perdu dedans, quand même. Ce qui est quand même remarquable dans la mesure où tout est complètement interchangeable dedans. Et ce qui est vraiment bien fait aussi, c'est que même si les panneaux bougent, etc., on ne peut jamais être écrasé entre deux panneaux, par exemple, on ne peut jamais mourir bêtement comme ça. Moi, c'est un niveau qui m'a un peu fait penser, par exemple, au Temple de l'eau dans Zelda, Ocarina of Time. C'est pareil, le Temple de l'eau, c'est un peu un trois donjons en un donjon. Hein, en
fait. Ouais, avec plusieurs... Voilà.
Est-ce que je trouve, moi, ce qui, ça m'a amené à une réflexion, c'est que quand on joue à un Zelda ou même à un Mario, par exemple Mario, on n'est pas choqué du fait qu'il n'y a aucune règle physique réaliste respectée dans ce jeu. Puisque, voilà. Ce que pour moi, le défi que Dishonored réussit vraiment pleinement, c'est d'arriver à introduire des éléments de jeu pur, c'est-à-dire genre un donjon de Zelda, par exemple. Le donjon de Zelda, il justifie parce qu'il y a un mec qui a planqué un truc dedans, il a dit « je vais faire un énorme donjon et tout », et on est dans l'Heroic Fantasy, et donc on n'est pas choqué. Mais arriver à justifier des niveaux un peu déments, des éléments de gameplay un peu fous, dans un univers qui reste cohérent et qui reste assez proche de notre réalité, etc., je trouve que c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment le gros défi qui est quand même réussi par ce jeu, quoi. Je trouve qu'il faut le souligner parce que c'est... Voilà.
Et par ailleurs, point assez important, d'après ce que j'ai lu en tout cas, une version PC à la hauteur, sans bug, qui permet de jouer directement au jeu aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais dernièrement, souvent les versions PC sont un peu à la ramasse.
Et, j'ai lu qu'il y avait des problèmes sur PC, moi.
Ah bon ?
Ouais. Je ne sais pas.
Ah bref. Bon, bah d'accord, j'ai rien dit.
Non,
alors.
Qui était très gourmand, je sais plus, peut-être.
Ah, c'est probable, très gourmand. Vu la réal, ouais, c'est probable.
Dishonored 2, console et PC. Et puis, c'est le moment, donc, d'accueillir Monsieur Fall. Hein. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de jouer au bricoleur avec Les Inventeurs, un jeu signé Frédéric Henry, illustré par Gaël Lannurien. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui vont durer une quarantaine de minutes. C'est édité en français par Bombix et Multiverse. Alors, Frédéric Henry, cela vous dit peut-être quelque chose. C'est l'auteur de Timeline, l'énorme succès de Timeline planétaire, c'est Frédéric Henry. Mais c'est aussi l'auteur de Conan, un jeu qui, sur la plateforme Kickstarter, a fait un carton monstrueux en levant plus de 3,5 millions de dollars. Un jeu de figurines hardcore, un truc énorme. Oui, Frédéric Henry est le roi du grand écart. Entre Timeline et Conan, il y a un écart monstrueux. Et c'est aussi un homme de challenge. Et il s'est dit un matin, tiens, je n'ai jamais fait de jeu pour les amateurs de cubes en bois, pour les pousseurs de gestion et de tordage de neurones. Pour moi, en fait. Et il s'est posé à une table et il a sorti Les Inventeurs. Et c'est dingue, ça fonctionne. Ce type est incroyable. Ça fonctionne d'autant mieux et d'autant plus que c'est accessible à partir de 10 ans. La règle est super simple, compréhensible par tout le monde. Et pourtant, si vous jouez, rejouez, rejouez, vous allez trouver des stratégies, vous allez vous tordre les neurones et c'est toujours le meilleur qui va l'emporter. Il y a de la profondeur à l'intérieur des inventeurs. Alors, de quoi donc est la question ? En gros, vous allez gérer des inventeurs, vous en avez 4 devant vous, ils ont des caractéristiques, vous allez améliorer au fur et à mesure de la partie, ils ont des compétences, vous avez des cartes inventions au centre de la table, vous allez à votre tour engager vos inventeurs qui vont vous permettre de poser des cubes en bois sur ces cartes inventions. Donc vous allez participer avec les autres joueurs à la table à la construction de ces inventions pour en récupérer les bonus. Celui qui aura le plus participé va récupérer en premier le meilleur bonus, puis le second bonus, etc. Je vous passe les détails. C'est fin, c'est subtil, ça fonctionne parfaitement. Le jeu va faire un carton. Je dis va faire parce qu'il arrive là aujourd'hui sur les étals. Et comment je sais qu'il va faire un carton ? Parce qu'ils ont un système de promotion absolument incroyable. Ils ont fait un championnat de France sur prototype avant que le jeu sorte, il y a quasiment 6 mois. Et des milliers de joueurs ont joué et ont validé le principe. En plus, ils l'ont équilibré au fur et à mesure des compétitions. Ils ont mis en ligne une application pour jouer, pour découvrir le jeu sur un site, vous trapez les inventeurs jouer en ligne sur internet, vous savez faire, vous trouverez l'application, des tonnes de gens y jouent et trouvent le jeu absolument extraordinaire. Je vous rappelle son nom, Les Inventeurs, Frédéric Henry, Gaël Lannurien aux illustrations, de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'une quarantaine de minutes. C'est chez Bombix et Multiverse, ça coûte moins de 30 €, ça vient d'arriver, mon cher Aaron, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. On le dira jamais assez. Il faut aller voir ce site si vous êtes intéressé par les jeux de société et les jeux de plateau, bien sûr. Et puis, c'est le moment. Il fallait quand même à un moment un jeu où on propose du Ghostbuster, du Gremlins, de l'agence Tourisque.
Il fallait qu'on en parle parce que.
Il fallait qu'on en parle. C'est bien sûr Lego Dimension.
Choisissez parmi un groupe d'élite composé d'hommes, de femmes, de fantômes, de chiens, d'extraterrestres, d'êtres interdimensionnels et de méchants. Et faites combattre ces 4 concurrents dans des combats multijoueurs. Regardez-les s'affronter dans 21 arènes incroyables et 4 modes de jeu palpitants.
C'est sorti en 2015, en septembre 2015. L'idée générale, c'était de surfer sur la vague Skylanders, Amiibo, Disney Infinity, tous ces jeux qui ne sont pas que des prétextes marketing pour faire acheter des jouets hyper chers. Alors qu'on n'en a pas besoin, déjà, à des parents qui ont autre chose à faire de leur pognon. Non, il y a un vrai propos. On va le découvrir aujourd'hui, c'est aussi d'extorquer des sous aux nostalgiques des années 80.
Aux quarantenaires, voilà, qui ont du mal à se remettre des années 80.
C'est complètement honteux, hein, voilà, on va le dire, mais...
Mais on assume,
C'est pas totalement indéfendable.
C'est clair. Alors oui, donc ce segment du jeu vidéo couplé à des figurines NFC, c'est un peu la guerre, hein, depuis quelques années.
Il y a déjà des morts.
Il y a déjà des morts, exactement. On rappelle brièvement, donc ça débarque en 2011 avec Skylanders. Ouais. C'est Activision qui lance vraiment ce créneau, qui l'invente. En lançant Skylanders, que moi j'avais pas trop vu venir, bon, qu'est-ce que c'est que ce système ? Et ça cartonnait, c'était un carton absolu.
Mais moi-même, je me suis rendu compte, genre un an plus tard, que ça se vendait. Enfin,
ça
moi,
se
pour
vendait
moi,
par camion, ouais. C'était un vrai phénomène. Du coup, ça a fait venir d'autres éditeurs qui se sont dit, bah, moi aussi je vais tenter. Je crois que le suivant, c'était Disney qui a lancé Disney Infinity, qui est un jeu qui n'était pas terrible du tout au début, puis qui a su évoluer au fil des itérations, qui s'est arrêté. on en a parlé ici même il y a quelques mois. C'est fini, Disney Infinity. Amiibo, évidemment, c'était, on parlait de la NES qui fait un carton en ce moment. Bah, Amiibo, à la sortie, fin 2014, pareil, il y a eu la chasse aux Amiibo. Ça avait été un vrai phénomène. Ça s'est un peu calmé depuis, mais il y a toujours des nouvelles figurines qui sortent. Il y a des trucs assez rigolos. Voilà, ça, c'est toujours alimenté.
Et donc, Lego Dimensions.
Et puis, Lego. Alors, Lego, c'est Warner qui est derrière ça. Et Lego, c'est sorti, donc c'est Lego Dimensions. C'est développé par un studio. C'est peut-être ce qui fait la différence aussi. Pour moi, c'est vraiment ce qui se fait le mieux en termes de gameplay. Si on met Skylanders un peu à part, qui est plus sur une tranche beaucoup plus jeune en termes de joueurs. Là, c'est Traveller's Tales qui est derrière ça, TT Games. Donc, c'est un studio qui date de 90. Hein, c'est un vieux studio anglais, je crois. J'avais lu, ils ont signé des jeux sur Mega Drive, des Pugsy, des Mickey Mania, des Toy Story sur Mega Drive, Super NES. Donc, c'est un vieux studio qui a une vraie culture du jeu de plateforme, du jeu d'action. Et puis, eux, ça fait 10 ans qu'ils sont spécialisés dans les jeux Lego. Mm-hmm. Alors, ils ont fait les Star Wars, les Lego Star Wars et Indiana Jones, on connaît. Et ils ont bien repris ça. C'est vrai que les premiers jeux Lego qui étaient sortis il y a quelques, bien avant eux, étaient des daubes. C'était pas intéressant. Et eux, ils ont vraiment réussi à s'accaparer l'univers Lego et à proposer des vrais jeux intéressants.
Avec un ton, une écriture.
Un ton, une écriture. Et c'est vraiment ce qui fait l'intérêt de leur production,
ironie,
c'est
qu'on a toujours... Un humour et une ironie, par
exemple. Il y a toujours deux niveaux de lecture, c'est à la fois pour les enfants, parce qu'on est sur du Lego, et en même temps, il y a toujours ces petits clins d'œil pour les adultes, les parents, des petites références.
Alors, si tu ne veux pas que je te coupe violemment avant que tu aies abordé tes années 80, il va falloir essayer.
On y va, on enchaîne. Donc, tu disais, donc, rentrée 2015, donc, Warner lance ce Lego Dimension, donc, qui lui cumule, c'était évident, mais il fallait le faire, c'était des vraies figurines Lego avec donc, un socle NFC qui permet de jouer avec un portail et de jouer avec tout ça. On commençait à sentir une ambiguïté dans le positionnement, à la fois enfant, parce qu'on a des licences Lego, etc. Et puis, il commençait à avoir des packs Ghostbusters, des packs Doctor Who, des packs Portal, des packs Scooby-Doo un petit peu. Du coup, on se disait, bah, tiens, ils visent qui exactement ? Est-ce que c'est les enfants ? Est-ce que c'est les parents ? Et puis, encore une fois, une expérience de jeu vraiment, vraiment honnête et bien foutue, parce que Traveller's Tales, ils savent faire ça. C'est-à-dire qu'on a toujours ce mix plateforme, énigme. Et puis, c'était un jeu qui avait su exploiter le portail dédié à ces jeux-là, avec un jeu qui permet toujours de déplacer les figurines. Et c'est pris en compte dans le jeu. C'est tout bête, mais ça, les autres ne le faisaient pas. Donc, c'était une originalité, donc un jeu bien conçu. Et puis là, on a une nouvelle vague qui arrive. C'est-à-dire qu'on avait des packs d'aventures avec des thématiques, on a des packs de personnages. Et puis là, on a une nouvelle formule qui arrive, ce sont les packs histoire. En fait, c'est un nouveau concept qui permet de redécorer son portail. Je sais pas si vous vous rappelez, le portail, il avait une forme avec un portail quoi, d'origine. Voilà. Et en fait, là, on a des nouveaux packs qui sont dédiés à des films, des longs métrages, en fait, qui permettent de redécorer le portail avec une thématique et de revivre un film en entier, en fait, en plusieurs chapitres. Ah, ouais. Le premier qui est sorti, c'est Ghostbusters de 2016, le fameux film de 2016, qui est vraiment sympa. Alors, on va pas refaire le procès du film, hein, on va pas reparler du film.
Bon, il mérite pas.
Non, mais je vais finir par te couper violemment.
Donc, qui était vraiment bien fichu. En fait, pour moi, un des défauts, il y a eu un premier pack Ghostbusters sur le film original. Le problème, c'était le ratio prix et durée de vie. En fait, on est quand même sur le premier pack Ghostbusters de 84. On était quand même sur un pack à 30 euros, je crois, et un jeu qui durait dans les 2 heures. Donc, ça fait un ratio assez moyen.
Ouais.
Et voilà. Donc, mais avec quand même un petit monde ouvert à explorer. Donc il y a toujours une, voilà, il y a toujours de quoi faire. Là donc c'est pas qu'on a donc le Ghostbusters 2016 qui est vraiment sympa, qui est beaucoup plus long, enfin beaucoup plus long. On a sur 7 heures de jeu. On revit les différents moments du film de 2016. Là encore, on retrouve la formule, donc on peut jouer à deux, on a un mélange d'énigmes, d'action, exploration, etc. Et puis
infernal.
Et en fait, tout s'est accéléré là avec les annonces de sortie. C'est que là, en fait, on sent que là vraiment, il y a un focus sur les années 80. Et c'est là où vraiment là j'ai sombré. J'ai
perdu les Gremlins.
Alors voilà, en fait, là, Warner s'est lâché complètement. Et Lego. Là, cette semaine, on a donc un pack Gremlins qui sort avec deux personnages Gremlins. On a E.T. qui sort. On a un pack Sonic. J'ai pu essayer un petit peu. On a l'agence Tourisque. Qui est terrible aussi, on a Barracuda avec son camion, on a un monde ouvert.
C'est
en fait, c'est une orgie. Non, et en fait, moi, le point de non-retour a été atteint lorsqu'on a eu l'annonce pour 2017 de K2000, on va avoir un David Hasselhoff en Lego. Oh, avec
et là-dessus, je vais lancer, parce qu'il voulait en parler. Non, mais on ne peut pas continuer.
Je me demande, en fait, quel est le positionnement? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les parents?
Enfin, je crois que c'était que pour toi.
Et on se dit que tout est possible. Est-ce qu'on aura un jour deux flics à Miami, les maîtres de l'univers? Tout est possible.
On les aura.
C'est pas impossible. En tout cas, jusqu'où vont-ils aller? C'est la grande question. Et c'est assez impressionnant en termes de licences 80s et des clins d'œil.
Allez, juste un petit clin d'œil avec, là aussi, avec un jeu tout en subtilité, ça s'appelle Killing Floor 2. Alors, de je ne sais plus quel studio, je m'étais renseigné, mais...
Tripwire Interactive.
Voilà, je me souvenais de Killing Floor, qui commençait en tant que mode d'Unreal Tournament.
Absolument.
Et après, qui était sorti. En plus, c'était un jeu fait super vite, je crois, en 3 mois par 10 personnes, mais qui avait eu un certain impact.
Ouais. Donc sorti en 2009. Et là, donc, ils reprennent... alors, Killing Floor 2, c'est du survival horror en coop, en ligne, où on se retrouve, on va être à une équipe de 6, où on va incarner des classes, différentes.
C'est pas du survival horror, c'est de l'horreur...
C'est de l'horreur grotesque, c'est-à-dire que... C'est de l'horreur, c'est grotesque.
On est loin de pitié,
on n'a pas peur, on flippe pas. Ouais. Enfin, il faut survivre, et c'est vraiment... Et c'est dégueulasse, c'est vraiment l'esthétique... C'est l'esthétique du cracra. Mais voilà, c'est bien, ça fait une petite cure après. Bref, c'est une esthétique du cracra où on repeint les cartes en rouge à la fin. Que dire ? Non, mais c'est vraiment un jeu. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment on a donc le système des classes est très bien fait. On va pouvoir justement
jouer un médecin, hein ? Parce que tu joues.
Ah ben je joue. Ben là, je joue encore un médecin. Évidemment, forcément, je joue un médecin. Bon, on peut jouer le commando, le soutien, le démolisseur, le pyromane. Donc il y a vraiment des choix tactiques et stratégiques à faire avant que se lancent les parties. C'est assez classique, c'est vraiment des hordes de Z, alors qu'ils sont pas vraiment des zombies, mais des espèces de trucs génétiquement modifiés, voilà. Et non, mais juste pour dire que je trouve ça, c'est un jeu vraiment très, pour un petit, une petite somme, je crois que c'est une trentaine d'euros sur PS4, puisque là, ça sort sur PS4 et aussi sur PC, donc ça va donner un peu plus, le fait que ça sorte sur PS4, ouais. Ça va donner un peu plus de visibilité à ce jeu. Et moi, je trouve ça vraiment très chouette, je trouve ça assez, ça s'adresse aussi bien à ceux qui veulent, passer, parce que les parties durent, en général, c'est... il y a des parties de 4 tours, de 7 ou de 12. En général, on prend 7. Ça dure une vingtaine de minutes, une demi-heure. Elles sont assez... intenses. Merci. Assez costauds. Et, Et ça dépend, enfin, c'est l'implication du, comment dire, des joueurs dans le jeu. Alors, enfin, on peut juste jouer ça, voilà, comme ça pendant une demi-heure, juste pour le plaisir d'envoyer voler des intestins, des trucs comme ça. Ou sinon, vraiment s'impliquer et aller vraiment dans le côté très tactique, parce que c'est un jeu qui a été très soutenu au départ par des hardcore gamers qui voyaient ça plutôt comme une alternative à Left 4 Dead. Et, mais ça s'en éloigne. Mais bon, bref, je trouve que c'est un très bon jeu, bien, bien sale, bien méchant et bien, bien tactique, quoi. Voilà.
Ouais, merci, c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper mais à laquelle vous allez aussi répondre hyper vite parce qu'on est en train de se faire taper sur les doigts parce qu'on est en train de sortir des clous, mais c'est pas grave. Mais bon, bref. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Franz?
Je sais pas, moi en ce moment, je regarde Colombo sur TMC. Voilà.
C'est bien. En jouant à Rocket League sur
j'alterne. Colombo, Rocket League.
Les braises, ils sont, il est partout, Colombo. Ouais, ouais, c'est clair.
Je rappelle que cette série est géniale. C'est tout.
Et je rappelle aussi que sur Libération, tu as signé plusieurs articles à lire. Hein. Moi, je les conseille sur Colombo parce que c'est.
C'est une passion.
Non, mais c'est vrai. On a, à Libération, nous avons un spécialiste de Colombo. Et moi, je pense que c'est à souligner quand même. Voilà, quand même.
Personne ne les lit, mais ça fait plaisir de les écrire.
Moi, j'ai lu. Voilà, et maintenant, des gens
j'espère,
là,
qui
nous regardent. Patrick.
Quand je ne joue pas, je vais voir John Carpenter en concert. Ah, il était au Grand Rex le 9 novembre, et c'était fabuleux. Un moment précieux, parce que... Alors on sait que voilà, le monsieur est plutôt jeune, mais il avait une pêche sur scène. Mmh. Et en fait, il y a un rapport très particulier quand on a devant soi à la fois le réalisateur des films et le musicien, parce qu'il faisait la plupart des BO de ses films. Il y a une... particularité à voir à la fois le réalisateur et le musicien. Il y a un côté, puis c'était génial, quoi. Il a repris tous les New York 97, tous les Prince of Darkness, c'était fabuleux. Vraiment un concert, un moment précieux qui est passé trop vite, mais que j'oublierai pas, qui était très très bien.
Mm-hmm. Ah, tu y étais aussi.
Oui.
D'accord. Joël.
Oh, moi je regarde, j'ai regardé les trois débats. Après, j'ai regardé les trois débats de la primaire, de la droite et du centre. Voilà, donc jeudi soir dernier, j'ai encore regardé. Je me suis dit, voilà, tous les débats. Ça me passionne, ça m'intéresse. Voilà,
À ce point ?
Ah oui, je trouve ça intéressant. J'aime beaucoup. Non mais ça m'intéresse, notre futur président ou présidente de la République sera peut-être issu de ces sept personnalités, peut-être, c'est possible. Donc, voilà.
Moi pour ma part, j'ai regardé le documentaire à voix haute, c'était diffusé le 15 novembre sur France 2, et il est aussi disponible sur YouTube et pour quelques jours sur Pluz. Et le documentaire à voix haute, c'est un documentaire sur le concours Eloquentia de Paris 8, donc l'université à Saint-Denis, et c'est un moment assez incroyable, ça dure 1h10, c'est produit par Infrarouge, donc ça a retrouvé sur leur chaîne YouTube, et où on accompagne comme ça ces jeunes qui apprennent à parler en public dans des discours et jusqu'au concours d'éloquence de Paris 8, et c'est juste passionnant, c'est des grands moments, c'est très beau à voir sur YouTube ou sur Pluz. Voilà. C'est fini pour cette semaine. Et puis merci à tous.
Merci.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur nos lives, sur Libération et sur les internets. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com